Chapitre 37. La fièvre dans le sang. Tandis qu'un animal se tapit dans le noir pour mourir, un homme cherche la lumière. Il veut mourir chez lui, dans son élément. Et les ténèbres ne sont pas son élément. Graham Greene. Coney Island, 10h du matin. Alice était trempée de la tête aux pieds. De grosses gouttes de sueur ruisselaient sur son visage. Elle baissa la tête pour constater qu'une tache de sang avait traversé son pantalon de survêtement au niveau du bas-ventre. Ses reins saignaient. À présent, elle n'en avait plus pour longtemps. Toujours dévorée par la fièvre, elle émergea malgré tout de son délire, retrouvant un peu de lucidité. Ne pas mourir avant d'avoir tout tenté. Elle sentit que le cerflex qui entravait ses chevilles s'était un peu relâché. Pas suffisamment néanmoins pour qu'elle puisse libérer ses pieds. Ses jambes étaient lourdes. Couchée sur le sol, elle fit un effort pour les pousser vers le haut et agripper le muret étroit qui supportait les toilettes. Dans cette position, elle commença à frotter la bande de nylon contre l'arête du mur. Le coin était usé et crénelé, mais certaines parties restaient suffisamment effilées pour écorcher la fibre. Dégoulinant de transpiration, les muscles perclus de crampes, elle continua ce mouvement de va-et-vient pendant un quart d'heure jusqu'à ce que... le cerflex céda. Galvanisée par cette petite victoire, elle retrouva avec soulagement une certaine liberté de mouvement. Certes, les menottes l'enchaînaient toujours à la canalisation, mais plus rien ne lui paraissait impossible. Elle s'accroupit et passa d'un pied sur l'autre pour dégourdir ses jambes. Malgré la faible lumière, elle examina en détail la tuyauterie. Le système avait au moins un siècle. Elle repéra un point de raccordement entre deux tubes où la rouille avait commencé à attaquer la fonte. Si ce machin doit céder, c'est par là qu'il le fera. Elle se mit en position et, avec le talon droit de sa basket, envoya un grand coup de pied à la jonction des conduites. Toute la structure s'ébranla sans casser pour autant. Sous l'effet du choc, les bracelets métalliques entaillèrent encore un peu plus sa chair, mais elle n'était plus à une douleur près. La canalisation allait se rompre. Alice en était certaine. Malheureusement, son attaque contre la plomberie avait provoqué un bruit retentissant qui s'était répandu dans tout le bâtiment. Il fallait prier pour que le Russe ne se trouve pas dans les parages. De toute façon, qu'avait-elle à perdre? Déterminée, elle rassembla le peu de force qui lui restait pour enchaîner une série de coups chaque fois plus violents. Son intuition s'avéra juste. Après avoir résisté à une dizaine d'assauts, la tuyauterie lâcha au niveau de son point névralgique. Alice poussa un cri furieux et libérateur. Délivrée de ses fers, elle se retourna et... la silhouette inquiétante de Yuri se détachait dans l'encadrement de la porte. Un rictus sinistre déformait son visage bouffi. « Ma petite Matryoshka, » dit-il en s'avançant vers elle. Alice poussa un hurlement de bête et perdit connaissance. Manhattan. Madeline et Jonathan sortirent du complexe d'habitation. Le ciel était noir. La tempête balayait toujours la ville. La neige tombait continuellement depuis près de 12 heures. La couche de poudreuse dépassait à présent les 30 centimètres et rien n'indiquait que cela allait s'arrêter. Au contraire, des flocons lourds et épais s'abattaient à un rythme de plus en plus soutenu. Surtout, les piétons peinaient à avancer, ralentis par les bourrasques glaciales qui leur arrivaient en plein visage.
« Comment va-t-on à Coney Island ?»
cria Madeline pour dominer le blizzard.
« Essayons le métro !» Il y a une station de l'autre côté de la rue.
Pour Jonathan, qui avait vécu des années à New York, la neige n'était pas inhabituelle, mais l'ampleur de la tempête avait dû prendre de court la municipalité. Même sur la 14e rue, pourtant très large, un bus était immobilisé. Les taxis patinaient, et un cycliste téméraire venait de se prendre le gadin le plus mémorable de sa vie. Les chasse-neige et les pelleteuses balayaient laborieusement les grandes artères, mais semblaient en nombre insuffisant pour dégager les rues secondaires. Les équipes d'entretien étaient manifestement à court de personnel.
sans doute en raison des fêtes de Noël. Madeleine et Jonathan s'engouffrèrent dans la station dont l'escalier était devenu une vraie patinoire. « La neige va semer une pagaille monstre !» s'inquiéta Jonathan. « Ce sera le chaos dans moins d'une heure !»
Sur les quais, les retards s'accumulaient. Ils parvinrent difficilement à se glisser dans un wagon bondé.
« C'est loin d'ici ?» demanda Madeleine en regardant sa montre.
Jonathan consulta le plan affiché dans la rame.
« La ligne n'est pas directe. Il faudra changer à Union Square. À partir de là, on peut y être en moins d'une heure. »«
Et en voiture ?»«
Normalement, une vingtaine de minutes, mais pas un jour comme aujourd'hui. »
Le wagon roulait au ralenti et s'arrêta tant de fois qu'il leur fallut une éternité pour parcourir la distance entre trois stations. À peine descendue sur le quai, Madeleine attrapa Jonathan par le bras.
« Embrasse-moi »
demanda-t-elle pour tromper les éventuelles caméras de surveillance. Elle profita de leur étreinte pour coincer le Colt dans le jean de Jonathan.
« Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ?»«
Toi, tu continues par le métro, moi, je tente ma chance par la route. »
« C'est de la folie, Madeleine. La circulation va être bloquée à la sortie de Manhattan. »«
J'ai mon idée, » dit-elle.
« Le premier qui arrive fait ce qu'il a à faire. Take care !»
Il essaya de protester, mais elle ne lui en laissa pas le temps. Le ciel était si sombre qu'on se serait cru en pleine nuit. Habituellement très fréquenté, Union Square était presque désert. Les rares véhicules avaient allumé leur feu de détresse et roulé au ralenti. Le signal « Off Duty » brillait sur le toit des taxis. Pour dégager la route, un 4x4 du New York Police Department remorquait une voiture abandonnée. Seuls les tout-terrains permettaient de circuler normalement. Madeleine repéra une limousine embourbée dans la neige au début de Park Avenue. Elle se posta près de la berline et attendit que l'un des Ford Explorer de la police s'arrête pour treuiller le véhicule. Elle guetta le moment précis où les deux flics sortirent du 4x4 pour s'installer sur le siège conducteur.
« Hé !»
cria l'officier. Elle démarra dans un éclair. Cette bagnole devait peser 2 tonnes et mesurer près de 5 mètres. En tout cas, elle était hyper stable. Madeleine accrocha sa ceinture, régla le siège et les rétros à sa conduite. Désormais, elle connaissait bien le quartier et prit la direction sud-est. Sur le GPS, elle entra les coordonnées que lui avait fournies Anthony, le voleur de la fourrière. Cette fois, elle savait qu'il touchait au but. Grâce à Jonathan, elle connaissait avec certitude l'endroit où était détenue Alice. Aujourd'hui, s'écrivait l'épilogue d'une enquête qui la tourmentait depuis plus de 3 ans. Bien sûr, les flics allaient chercher à intercepter sa voiture et toutes les bagnoles de police étaient repérables par satellite. Mais c'était justement ce qu'elle espérait. Attirer le maximum de flics à Coney Island au cas où les choses tourneraient mal. Les premiers kilomètres se déroulèrent comme dans un rêve. Aux commandes du tout-terrain, Madeleine avait l'impression que la ville désertée lui appartenait. Puis, le trafic se ralentit aux abords du Brooklyn Bridge. Elle alluma la radio sur une station locale. La mise en garde de la municipalité tournait en boucle, demandant aux habitants d'éviter de se déplacer pendant la tempête. Mais ces incantations n'avaient que peu d'effet sur les New-Yorkais, qui en ce week-end de Noël n'allaient pas renoncer à quitter Manhattan. Madeleine enclencha son gyrophare et la sirène. L'effet fut immédiat. Les voitures s'écartaient docilement pour lui livrer passage, lui permettant de traverser le pont rapidement. Bien décidée à profiter pleinement de ce passe-droit, elle s'engagea sur l'Interstate 278, l'autoroute à 3 voies qui longeait les quais de l'Upper Bay. Même si la neige freinait la circulation, les autorités n'avaient pas encore fermé les ponts et les tunnels. D'après les infos, cela risquait d'arriver d'une minute à l'autre. Alors que le 4x4 se faufilait entre les véhicules de secours, Madeleine aperçut un panneau lumineux annonçant l'imminence d'un nouveau bouchon. 2 kilomètres plus loin, dans une zone où les voies se rétrécissaient, les voitures roulaient pare-choc contre pare-choc. Elle essaya de forcer le passage, fit une embardée, mordit le terre-plein central et brisa son rétroviseur en longeant à toute vitesse un mur en béton.
Merde !
Cette fois, elle était bloquée. Un poids lourd coincé par la neige neutralisait le trafic. Sans se démonter, elle fouilla le 4x4.
l'un des flics avait eu l'imprudence de laisser son arme à feu dans la pochette de la portière. Le fameux Glock 17, l'arme réglementaire des flics du New York Police Department. Elle s'empara du pistolet automatique et abandonna le SUV au bord de la route. Le ciel de plomb et le mur de flocons qui bouchait l'horizon donnaient à l'autoroute un aspect fantomatique. À pied, elle remonta la chaussée sur une centaine de mètres pour dépasser l'accident. Grâce à des manœuvres périlleuses, quelques voitures parvenaient à s'extraire de ce bourbier. Madeleine braqua la première sur son passage. Un break familial conduit par un crâne d'œuf arborant sur la vitre arrière un autocollant à la gloire du Tea Party. « Descends !» hurla-t-elle en lui pointant le flingue sur le visage. L'homme ne se le fit pas dire deux fois et attendit prudemment que sa voleuse ait pris du champ pour lever le poing et lui balancer une flopée d'injures. Madeleine avait remis le pied sur l'accélérateur. Elle n'avait plus de sirène ni de gyrophare, mais gardait la main enfoncée sur le klaxon. Elle n'avait jamais été si près du but. Elle prit un virage serré pour attraper la bretelle qui menait à Coney Island. La voiture tanga. Les roues arrière se bloquèrent un instant, mais, par une rétrogradation et un coup de volant bien senti, elle parvint à la redresser. L'image d'Alice Dixon captive, telle qu'elle l'avait vue dans le film, revint hanter son esprit. Même si elle sortait vivante de ce calvaire, dans quel état physique et mental l'adolescente allait-elle se retrouver à l'issue de ce nouveau cauchemar? Alice avait déjà fait preuve de solidité et d'équilibre. Mais quel genre d'adulte devient-on après pareille succession de traumatismes? Comment ne pas se laisser envahir par la haine ou la folie? Elle chassa ses questions en arrivant sur Neptune Avenue et en tournant dans l'impasse que lui avait indiqué Anthony.